Vous êtes sur RTL.
RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
Et à 8h, c'est Agnès Bonfillon qui vous informe. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Ce matin, une personne est toujours portée disparue dans le Gard après les pluies torrentielles de ce samedi.
Plusieurs rivières sont sorties de leur lit hier, emportant véhicules, causant de très nombreux dégâts. Certaines routes départementales sont toujours bloquées d'ailleurs ce matin. Le village du Vigan reste inaccessible. Anduze fait partie des communes les plus touchées. La maire Geneviève Blanc est allée à la rencontre des sinistrés dès hier soir.
On ne peut pas passer dans certaines rues parce qu'il y a trop de boue. Il y a un restaurant qui est complètement explosé, dévasté, des snacks qui ont pris l'eau. L'eau est montée à ras un peu de la mairie, hein, qui est située quand même en partie basse de la ville. C'est la raison pour laquelle nous avons déménagé notre PC de crise au collège, qui est dans un point haut. Il faut faire attention, même s'il n'y a plus d'eau, il y a beaucoup de boue. On peut glisser, on peut s'embourber. Il peut y avoir des trous qu'on ne voit pas sous la boue. Il peut y avoir des ponts fissurés. Il faut faire attention, être très prudent et si possible, attendre un peu avant de sortir. On va mettre tout en œuvre pour nettoyer le plus vite possible.
Étienne Baudu, vous êtes notre envoyé spécial sur place. Bonjour à vous.
Bonjour.
Ce matin, vous êtes sur la route de Saint-Jean-du-Gard. Hein, vous étiez en Anduze. Quel est le paysage autour de vous ?
Bien écoutez, la route pour entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard était tout à fait praticable ce matin. Je pense que les ouvriers de la voirie ont dû sans doute travailler toute la nuit, car il était assez facile de rejoindre Saint-Jean-du-Gard. Mais c'est vrai que toute la vallée du Gardon, la rivière, est ce matin en plus redescendue et est revenue quasiment à son lit d'origine après la brutale crue d'hier. Alors sur la carte d'ailleurs de Vigicrue, hein, tout est repassé du rouge à l'orange, puis maintenant au jaune. Le ciel d'ailleurs commence à se dégager et on peut apercevoir des trouées de ciel bleu. La deuxième vague qu'on craignait cette nuit n'a donc pas eu lieu. Alors l'heure est au constat des dégâts. Ici, dans le centre du village de Saint-Jean-du-Gard, seules quelques parties basses ont été envahies par une gangue de boue marron qu'il va falloir dégager. Le rez-de-chaussée de 3 immeubles ont été évacués, mais finalement, par simple précaution, les appartements n'ont pas été touchés, nous précise le maire. La caserne des pompiers envahie hier par les eaux semble elle aussi fonctionnaire à nouveau. Non, les dégâts se trouvent ailleurs, hein, sur des petites routes défoncées, voire emportées par le Gardon en furie, des ponts aussi endommagés, des hameaux sont encore coupés du monde, les prairies aussi où les champs cultivés ont été recouverts de boue, qu'il sera là en revanche sans doute très difficile à faire disparaître.
Merci beaucoup Étienne Baudu, en direct du Gard pour RTL. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se rendra sur place aujourd'hui. Il sera accompagné de Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique.
En France, Agnès, près de 13 500 nouvelles personnes testées positives ces dernières 24 heures.
Ah oui, positives au Covid. Autre chiffre qui témoigne du retour de l'épidémie, 20% des lits en réanimation sont désormais occupés par des patients touchés par le coronavirus. Dans plusieurs régions, le niveau 1 du plan blanc est activé. Les hôpitaux se préparent, s'organisent, sachant que la situation n'est pas du tout la même qu'en mars, Virginie Garin.
Oui, car lors de la première vague, quelques régions seulement étaient touchées, l'Île-de-France, le Grand Est surtout. Il a donc été possible de faire appel à du personnel venant d'autres régions et de transférer des malades. Là, toutes les grandes agglomérations sont concernées par l'épidémie. Et puis en mars, beaucoup de malades qui n'avaient pas le Covid n'ont pas été soignés. On a reprogrammé des soins. Là, il faut pouvoir les accueillir. Alors, face à cette situation très différente, les hôpitaux ont plus de mal à recruter, mais ils s'organisent. Les hôpitaux de Paris, par exemple, ont réussi à embaucher 1300 personnes depuis le mois d'août. Ils vont dans les écoles tenter de convaincre les infirmiers en fin d'études pour qu'ils restent en Île-de-France. Pour l'instant, à Paris, il y a 17 800 postes, 500 de plus qu'en mars. Mais les tensions risquent de vite se faire sentir. Le personnel est fatigué. La fédération hospitalière qui regroupe les hôpitaux publics en appelle donc désormais à l'État pour qu'il mobilise le secteur privé. Les cliniques s'étaient plaintes lors de la première vague de ne pas avoir été suffisamment sollicitées.
Virginie Garin pour RTL. Ce matin, dans le journal du dimanche, 75 députés de la majorité appellent à se faire vacciner massivement contre la grippe. Un acte citoyen, disent-ils, pour éviter de voir une épidémie s'ajouter à la pandémie.
Et puis Agnès, nous le savons, les conséquences de l'épidémie ne sont pas simplement sanitaires. Les répercussions économiques sont énormes.
Les plans sociaux se multiplient. Il en sera d'ailleurs question tout à l'heure à partir de midi sur notre antenne. L'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI ce dimanche et la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher. Autre illustration économique, les voyageurs d'affaires de moins en moins nombreux. Les entreprises font des économies, assument leurs choix. Mais face à cette nouvelle donne, eh bien les transporteurs, la SNCF, Air France, eux, tente de limiter les dégâts, Arnaud Touche.
Dans cette entreprise immobilière qui emploie 1500 collaborateurs à travers l'Europe, la crise du Covid a bousculé les habitudes pour les déplacements professionnels. Julien Goubeau, secrétaire général du groupe Klépierre, a déterminé de nouvelles règles pour protéger ses salariés.
On a fait remonter l'autorisation des déplacements au niveau de la direction générale pour les voyages à l'étranger.
Les visioconférences restent privilégiées et au final, le nombre de voyages professionnels a fortement reculé.
On a baissé de plus de 50% au premier semestre de cette année par rapport au premier semestre 2019.
D'autres grands groupes comme L'Oréal viennent de reconduire l'interdiction de voyages professionnels à l'étranger jusqu'à la fin du mois d'octobre, et c'est bien ce qui inquiète Air France par exemple, où la clientèle business représente 40% du chiffre d'affaires. Voilà pourquoi elle propose des billets flexibles ou encore le doublement des points fidélité. À la SNCF, on observe de près cette clientèle, comme le détaille Jérôme Lafont, le directeur marketing de Voyage SNCF.
La vraie question pour nous, c'est pas tant de savoir si les clients vont revenir de but en blanc, c'est plutôt savoir dans quel volume et est-ce qu'ils vont voyager autant qu'auparavant.
Et pour cela, la compagnie ferroviaire vient de lancer des réductions à destination des professionnels pour tenter à nouveau de les attirer dans les trains.
Arnaud Touche pour RTL. En politique, Xavier Bertrand ne le cache plus. Oui, il espère être le candidat de la droite en 2022. Le président de la région des Hauts-de-France s'exprime longuement dans Le Parisien ce matin et n'hésite pas à tacler Emmanuel Macron. S'il était de droite, dit-il, il aurait fait de la sécurité une priorité.
Une histoire qu'on aime mettre en avant sur RTL. Cet élan de solidarité en Haute-Savoie pour un jeune agriculteur.
Le maire de Saint-Gervais vient de lancer une cagnotte sur Internet. Objectif, venir en aide à l'un de ses administrés. Il y a des jours, François, 22 ans, était comme souvent en train de préparer ses fromages lorsqu'une explosion a provoqué un énorme incendie. Gravement brûlé, le jeune homme va sauver son arrière-grand-mère de 89 ans, récupérer deux veaux prisonniers des flammes dans l'étable alors qu'il est hospitalisé à Lyon au service des grands brûlés. Eh bien, son histoire a touché de très nombreux habitants aux alentours, Serge Pueyo.
Pour Jean-Marc Payex, il fallait à tout prix aider ce jeune agriculteur qui a tout perdu. Le maire de Saint-Gervais a donc lancé une cagnotte sur Internet pour permettre la reconstruction d'un bâtiment agricole moderne, bien loin de la vieille ferme qui a brûlé.
François Cural, il a 22 ans, c'est un passionné. Quand on le voit avec ses bêtes, eh bien, ses yeux brillent, donc c'est quelque chose de magnifique. Et il lui est arrivé un grand malheur qui a ému tout le monde de l'agriculture, mais qui a ému tout le village. Il faut que nous, on soit tous derrière lui. Il faut vraiment qu'elle gonfle cette cagnotte. Merci d'avance pour lui.
Hier, la cagnotte atteignait déjà 26 000 euros. Nous avons réussi à joindre sur son lit d'hôpital, François Cural, le jeune agriculteur grièvement brûlé.
Je suis très touché, ouais. C'est impressionnant comme les gens sont gentils et je remercie de tout cœur ceux qui y ont participé. Ça fait très chaud au cœur, c'est incroyable. J'ai beau avoir que 22 ans, j'ai vu ma ferme en flammes, j'ai dit ma vie est finie, quoi. J'ai été brûlé au niveau de la tête, du visage, quoi, et les deux avant-bras, plus les mains et les doigts. Je vais être greffé la semaine prochaine pour les bras.
De voir qu'on vous aide pour repartir.
Ça m'aide à garder le moral pour la guérison, on va dire.
Voilà, Serge Pueyo pour RTL. Et si vous aussi, vous souhaitez aider ce jeune agriculteur, la cagnotte Litchi s'intitule, sachez-le, pour François Cural. Nous vous mettons le lien sur notre site internet rtl.fr. Aux États-Unis, un courrier contenant de la ricine, un poison mortel, a été adressé à la Maison-Blanche. Cette missive aurait été envoyée du Canada. Elle a été interceptée avant d'arriver jusqu'à Donald Trump. Le président américain qui ne compte pas attendre l'élection présidentielle de novembre pour nommer le remplaçant de Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême. Après la mort de cette icône de la gauche, il souhaite une autre femme, très rapidement, mais cette fois avec des valeurs conservatrices. Ce qui promet une fin de campagne électrique. Les démocrates vont peser de tout leur poids pour éviter que cette nomination ne soit approuvée par le Sénat.
RTL Tour de France 2020.
Sur le Tour de France, remontada Agnès sera désormais liée à Pogacar.
Le jeune Slovène qui aura 22 ans demain a réalisé un coup de maître dans l'avant-dernière étape de la Grande Boucle. Il a grillé la politesse à son compatriote Roglic qui était pourtant en jaune depuis deux semaines. Incroyable retournement de situation lors du contre-la-montre de la planche des belles filles, Nicolas Georgerot.
Il est monté sur le podium à 4 reprises, vainqueur d'étape, maillot jaune, maillot blanc et maillot à pois. Pogacar a sidéré tout le monde. 57 secondes de retard hier matin sur le maillot jaune, 59 d'avance après ce contre-la-montre avalé à haute vitesse.
Je n'ai pas entendu dans les oreillettes parce que le public criait très fort. Je n'avais rien sur le temps, gagné ou perdu. Comme je connais très bien cette montée, j'étais à fond, du bas jusqu'en haut.
Et quel contraste avec un Primoz Roglic sans rythme emprunté, le visage marqué, qui ne ressemblait plus à grand-chose dans l'ascension, avec son casque légèrement de travers.
Clairement, j'étais un cran en dessous. J'ai pas été aussi rapide que les autres, mais j'ai fait de mon mieux. Bien sûr, je suis déçu du résultat, mais d'un autre côté, j'ai tout donné. C'est comme ça.
La planche des belles filles avait déjà entraîné les quatre fois précédentes un changement de maillot jaune, mais c'est l'épisode le plus spectaculaire qui s'y est joué hier.
Nicolas Georgerot pour RTL, évidemment. Il faut attendre la ligne d'arrivée sur les Champs-Élysées cet après-midi pour être sûr de voir le sacre du jeune prodige slovène. Mais sauf catastrophe, c'est quand même bien parti. Arrivé à suivre, bien entendu, sur RTL lors d'une émission spéciale à partir de 18h avec Vincent Parisot, nos envoyés spéciaux et nos invités, puis Isabelle Langer qui prendra le relais à partir de 19h30. En foot, la quatrième journée de Ligue 1, victoire de Rennes face à Monaco 2-1, même score en faveur de Lens contre Bordeaux. Au programme ce dimanche, Nice-PSG à 13h avec le retour de Mbappé. Marseille accueillera Lille à 21h, une rencontre à suivre dans RTL Foot.